Okay. Bonjour à tous. D'où on va commencer ce dernier cours qui va s'intéresser à l'application des procédés de croissance à l'élaboration de particules à grande concentration pour développer des fibres optiques et montrer finalement comment on fait les microprocesseurs. Alors ce que je vais faire durant ce dernier cours, c'est finalement utiliser un peu... on a oublié de mettre le truc... Voilà, un peu utiliser ce qu'on a vu, je dirais, durant ces deux dernières années, notamment les méthodes de synthèse haute température, la croissance cristalline, mais aussi les procédés d'élaboration de colloïdes, de sols, dans la chimie de solution, et comme on l'a vu la dernière fois, tout ce que sont les procédés de revêtement en couches minces par déposition physique ou déposition chimique. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, dans ce dernier cours, c'est finalement vous montrer comment on va pouvoir utiliser tout ça pour faire, je dirais, pour montrer comment la chimie a pu apporter des contributions énormes à certains domaines qui nous intéressent aujourd'hui plus particulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle je illustrerai ce cours par trois exemples. Le premier va traiter tout simplement de particules à gradient de concentration pour ce que sont les matériaux d'électrode pour les batteries et la nouvelle génération de batteries à ion lithium. Le deuxième aspect va consister à vous montrer finalement comment cette chimie du solide, comment les procédés qu'on a vus ont pu permettre, je dirais, de certaines révolutions au niveau des fibres optiques. Et, tout dernièrement, je vous montrerai finalement comment cette maîtrise de la croissance cristalline, notre capacité à pouvoir faire des barreaux de silicium, a pu permettre le développement de tout ce qui est la microélectronique via les microprocesseurs et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voudrais couvrir aujourd'hui pour terminer ce cours. Alors, je commencerai tout d'abord par le premier cas, qui est le cas des matériaux d'électrode. Et ici, je trace tout simplement la stabilité thermique des différents composés en fonction de la capacité de décharge et de la concentration en cobalt. On va s'intéresser à ces matériaux qui sont des oxydes lamellaires, qui sont les oxydes, je dirais, utilisés aujourd'hui dans tous vos électrodes pour les batteries à ion lithium. Et vous voyez ici, on fait ce diagramme dans lequel on a la concentration en nickel. Vous avez cette capacité avec la stabilité thermique. Et vous voyez que si on augmente la concentration en nickel, on peut avoir des matériaux avec des capacités allant à 200, voire au-delà. D'où, bien sûr, c'est l'intérêt d'utiliser ces types de composés qu'on va déterminer par les teneurs en nickel, cobalt et manganèse par 0,5, 0,3, 0,2, la raison pour laquelle on écrit cela, 5,3,2. La question, c'est que si on veut préparer ces composés ici, ils ont une très bonne capacité comme on le peut voir ici, mais malheureusement, cette capacité décroît fortement au fur et à mesure que vous allez cycler vos matériaux. Par contre, si vous prenez des composés qui sont moins riches en nickel, comme indiqué ici, bien dans ce cas, vous avez des composés qui vont tenir ces capacités relativement correctement. D'où la stratégie, à savoir si on peut finalement utiliser ces deux mondes pour créer le meilleur matériau. C'est-à-dire, on va voir si on peut développer des particules cœur-couronne. La philosophie, la stratégie est indiquée ici, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser un matériau de cœur, celui qui a la plus haute capacité, qui a une stabilité thermique limitée. Par contre, on va l'entourer du matériau qui a la plus haute stabilité thermique et faire en sorte directement de pouvoir, de la même matière, du même objet, recueillir à la fois une stabilité thermique et une capacité. Donc c'est la raison pour laquelle on va s'intéresser à développer des particules cœur-couronne et tout en essayant de maintenir la densité d'énergie. Alors pour ce faire, eh bien on va utiliser deux stratégies pour concevoir cet objet. La première stratégie va se dire directement, est-ce qu'on peut partir de phases déjà lithiées et faire une structuration de ces phases lithiées pour contenir ou pour fabriquer ces objets cœur-couronne? Ou la deuxième, c'est est-ce qu'on peut utiliser la stratégie à partir des hydroxydes et dans ce cas, de créer une lithiation par la suite? Eh bien, je vais vous montrer un peu ce qui s'est fait, ce que l'on fait et où va la recherche dans ce domaine. Alors sur le premier exemple, eh bien, on va utiliser les concepts qu'on a vus ensemble déjà, je crois lors du quatrième cours, sur les méthodes de template et de self-assemblage. Où dans ce cas, on va considérer finalement une particule sphérique et on va essayer autour d'elle de former une couronne de particules entre matériaux indiqués ainsi en bleu pour obtenir de façon schématique les particules cœur-couronne indiquées ici. Mais si vous voulez faire cela, eh bien, il faut que vous réalisiez que dans ce cas, cette particule a une charge de surface qui est négative, ainsi que les particules bleues. D'où par conséquent, Si vous voulez directement faire cet auto-assemblage, vous êtes obligé de créer sur l'une de ces particules une charge négative et sur l'autre la charge positive. Et bien cela, on va le faire, comme on l'a déjà vu, en utilisant les tensioactifs, et c'est pour ça qu'on va utiliser dans ce cas le cétylméthylammonium bromide. Ou vous avez ce tensioactif, les parties hydrophobes et hydrophiles, vous allez dans ce cas greffer sur votre directement oxyde pour ensuite pouvoir, comme indiqué ici, y fixer les particules bleues, c'est-à-dire faire cette couronne indiquée ici. On fait cela à des températures ambiantes et ensuite on récupère les solutions ou les particules pour chauffer à 500 degrés et obtenir cette morphologie avec la particule centrale et bien sûr étant la particule noire et autour directement les particules bleues. Si on regarde maintenant par des analyses, je dirais, de diffraction électronique, eh bien on s'aperçoit finalement qu'on a effectivement au centre les quantités de manganèse, cobalt, nickel et vous apercevez autour et pertinemment ces particules qui contiennent du ruthénium et de l'étain. Cependant, comme vous pouvez le constater, eh bien, cette couronne schématique qu'on avait directement conçue, eh bien, on ne peut la réaliser en raison tout simplement des tailles de particules qui sont dans ce cas trop grosses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dans ce cas ici une deuxième stratégie qui, dans ce cas, aussi a été mentionnée lors des cours précédents. Maintenant, on va utiliser tout simplement cette phase lithium NMC comme le cœur, comme le germe, qu'on va mettre dans une solution contenant tous les ingrédients pour former directement la phase couronne. Vous pouvez voir comment ça se passe ici, avec de nouveau la schématique à la fin, vous montrant tout simplement comment les particules peuvent se construire. Et effectivement, lorsqu'on utilise ce procédé, eh bien, on peut obtenir ces particules d'abord sphériques, avec, comme vous le voyez ici, sur ce spectre d'analyse spectroscopique par dispersion d'énergie, où on voit, ou on peut savoir, quelles sont les quantités d'éléments métalliques et leur répartition lorsqu'on va tout simplement balayer ou traverser ou marcher long de ce diamètre. Et on s'aperçoit ici qu'effectivement, au départ, on a une concentration en ruthénium plus importante dans ce cas qu'en cobalt et bien sûr qu'en manganèse, vice-versa de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'en ce cas, effectivement, on a réussi à créer cette particule corps-couronne, mais la difficulté de cette méthode, c'est que lorsqu'on a fait cela, eh bien, on a utilisé un milieu acide qui fait en sorte qu'on a tout simplement oxydé une partie du lithium dans notre matériau, ce qui fait qu'il faut monter à des températures élevées pour obtenir des performances qui ne sont pas mirobolantes. D'où par conséquent, dans ce cas, eh bien, on a réussi, je dirais, à structurer une particule comme on le souhaite, mais les performances ne sont pas, je dirais, en adéquation avec nos attentes. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, on va repartir dans une méthode différente, c'est-à-dire la deuxième approche, qui va consister maintenant à fabriquer des hydroxydes et à construire à partir de ces hydroxydes. Alors là, vous avez une méthode de synthèse classique de matériaux d'électrode, et ça, c'est la façon dont vos matériaux d'électrode sont préparés aujourd'hui. Il s'agit d'une coprécipitation en milieu basique en présence d'un agent chélatant de sulfate, de nickel, de cobalt et de manganèse. Et en contrôlant tous les paramètres, comme est indiqué ici, eh bien, on peut obtenir ces particules sphériques qui ensuite, en tant qu'hydroxyde, sont tout simplement chauffés à haute température par une pyrolyse pour donner finalement la phase que l'on recherche. Et bien maintenant, on va utiliser ce procédé pour faire ces particules cœur-couronne à partir d'hydroxyde. Et ce procédé il va comprendre trois étapes, comme indiqué ici. La première étape eh bien, va tout simplement consister à préparer le cœur de la particule, comme je l'ai mentionné auparavant, qui dans ce cas sera directement un cœur qui sera riche en nickel. Et on va précipiter les différents ingrédients ici. Ayant fabriqué ce cœur, ensuite on va aller, par la chimie de solution, une fois de plus, déposer une couronne qui va être à la phase qui va être maintenant riche en manganèse, comme indiqué ici. Et vous obtenez, vous voyez, ces particules cœur-couronne, vous voyez très bien l'interface entre le cœur et la couronne. Et ensuite, ayant obtenu cela, eh bien on va tout simplement faire une manip de diffusion dans laquelle on va réagir ces particules avec du carbonate de lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on obtient très bien, on voit très bien du moins, le cœur et la couronne de ces particules. Et on a finalement des composés de formules structurées dans laquelle la phase riche en nickel se trouve au centre et la phase, je dirais, pauvre en nickel se trouve à l'extérieur. Eh bien, lorsqu'on regarde finalement les propriétés électrochimiques de ces composés, eh bien, on s'aperçoit, ou on trace dans ce cas la capacité en décharge en fonction du nombre de cycles, que les particules cœur-couronne, comme indiqué ici, eh bien, ont une meilleure tenue en cyclage, puisqu'on peut atteindre aux alentours de 500 cycles comparé aux particules non enrobées. Vous voyez qu'en ce cas, les résultats sont très prometteurs. Cependant, si vous regardez de façon claire sur ces photos ici, vous apercevez que si maintenant je prends une microscopie à balayage de cette particule, après 500 cycles, vous apercevez ici que dans certains endroits, on note une certaine délamination entre le composé de cœur et le composé de surface. Ça veut dire que ce procédé est certes intéressant, mais de nouveau présente des difficultés en raison de la délamination à un grand nombre de cycles. D'où par conséquent, il a fallu changer la stratégie, et c'est ce qu'ont fait les chercheurs américains du Dargon National Laboratory, où, dans ce cas, eh bien, ils ont réalisé que finalement, s'il y avait cette interface ici, pourquoi pas faire des particules à gradient de concentration, c'est-à-dire que maintenant, on va faire finalement changer la concentration en nickel et en manganèse du cœur à la périphérie de la particule, avec, comme vous le pouvez voir ici, un taux de nickel qui va décroître et un taux de manganèse qui va augmenter. D'où là aussi, la question, c'est comment faire ça et avoir les particules que l'on souhaite. Eh bien, on va revenir exactement à la même chimie de solution, c'est-à-dire la chimie des hydroxydes, et on va maintenant contrôler cette chimie encore mieux. D'où on va pouvoir avoir deux approches une fois de plus, soit travailler sur, dans un premier temps, de faire un gradient de concentration tout simplement dans la couronne, et ensuite voir un gradient de concentration au travers de la particule. Eh bien, cela, bien sûr, peut se faire par un contrôle, je dirais, poussé de cette chimie des solutions. Et là, on atteint presque ce que j'appellerais le génie des procédés, où vous avez le système qui va permettre de synthétiser tous ces hydroxydes avec les différents réservoirs, les différentes solutions riches en manganèse, solutions riches en nickel, avec les agents chélatants, l'ammoniac dont je vais parler par la suite, ou l'hydroxyde d'ammonium, ainsi que la base, l'hydroxyde de sodium. Avec ces différentes valves qu'il va falloir contrôler selon la quantité de nickel, de cobalt, de manganèse que l'on veut mettre à l'intérieur. D'où tout ça, eh bien, bien sûr, c'est du génie des procédés, ça va directement se modéliser. Vous avez ici le modèle, la modélisation, où vous avez les différents réservoirs. On peut en déduire les différentes équations pour finalement en déterminer la concentration des solutions que l'on devra ajouter en fonction du temps, de façon à avoir cette répartition, je dirais, linéaire, ou du moins contrôlée, des différents gradients et des différents éléments. Eh bien, si on fait ça, eh bien, voilà ce que l'on peut faire si tout d'abord on essaie de contrôler finalement la concentration de la couronne, ou ici vous avez tout simplement des mesures d'analyse par microsonde électronique, vous voyez une fois de plus, regardez en noir, c'est la concentration en manganèse, et vous voyez que cette concentration en manganèse eh bien, va augmenter de l'issue du centre vers l'extérieur et vice-versa. D'où, vous voyez le nickel qui est en noir, eh bien, ce nickel va décroître à la surface, alors que le manganèse en bleu va augmenter. Donc, ça veut dire réellement qu'on a dans ce cas augmenté la concentration en manganèse en surface, et vous voyez qu'en ce cas, le gradient de concentration, puisque les éléments changent tous dans la partie, dans la couronne. Eh bien, lorsqu'on fait cela, là aussi, on s'aperçoit qu'on a une amélioration de la tenue en capacité de ces différentes particules, comme indiqué en bleu, si on les compare directement aux composés pristine sans ou n'ayant pas cet effet, je dirais, de cœur-couronne. Mais là aussi, on s'aperçoit qu'après 1000 cycles, il y a toujours une délamination de cette interface. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, les chercheurs ont tout simplement tenté de faire l'étape suivante, qui est d'avoir cette répartition en concentration au travers de la particule. Et là, vous avez un exemple où je rapporte des photos de microscopie à balayage, où vous voyez ici la particule avec les différents éléments, le nickel, le cobalt et la manganèse. Vous voyez ? Et il s'agit d'hydroxyde. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, au centre, il y a très peu de manganèse, et on voit la concentration augmenter au fur et à mesure que l'on va vers l'extérieur. Et vous le voyez d'ailleurs très bien ici. Maintenant, je prends ces particules et on va faire un traitement, toujours pareil, avec du carbonate au lithium à 800 degrés C. Et vous voyez qu'on maintient la forme des particules, mais également, on maintient également la répartition. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, toujours pareil, le nickel est très concentré au centre de la particule. Par contre, sa concentration décroît, comme indiqué ici, au fur et à mesure qu'on va vers la surface. Et l'opposé pour le manganèse, dans lequel, dans ce cas, très faible concentration au cœur, comme vous voyez ici, et ensuite une augmentation. Donc tout ça, ça veut dire qu'on peut directement maîtriser ce composé, cette synthèse, et avoir ces particules à gradient de concentration. Et bien, lorsqu'on fait cela, on peut regarder finalement maintenant quelles vont être les performances. Et voilà ici, je dirais, une schématique de votre particule. Et vous voyez qu'en ce cas, lorsqu'on a un gradient de concentration, eh bien, on a une amélioration considérable de cette tenue en cyclage. Mais plus important est, du point de vue application, est l'aspect bénéfique au niveau de la sécurité de ces accumulateurs. En effet, vous avez ici, je dirais, un moyen de caractériser la sécurité de ces accumulateurs, c'est en mesurant la chaleur dégagée de cet accumulateur en fonction de la température. Et vous avez ici ces courbes avec des delta H différents. Et vous voyez que dans le cas du composé avec gradient de concentration, qui contient, rappelez-vous, le manganèse très fort concentré à la surface, qui est très stable thermiquement, bien vous voyez qu'en ce cas, bien je vais tout simplement déplacer ma température de stabilité de 200 à 245 ou 250 degrés C. Ça veut dire que par ce biais, eh bien, je peux tout simplement augmenter l'aspect sécuritaire de ces différents matériaux. Eh bien, je dirais que pour conclure cet exemple, eh bien, le but est de vous montrer finalement comment, à partir de ces particules à gradient de concentration, eh bien, ce sont des matériaux qui sont aujourd'hui en transfert de technologie pour la prochaine génération d'accumulateurs à ion lithium pour le véhicule électrique. Et tout ça, de nouveau, est basé sur la chimie et sur la maîtrise, j'espère qu'on l'a vu, de cette chimie de solution. Eh bien, pour regarder un peu cet aspect de chimie et voir comment, vous allez voir que dans mon deuxième exemple, eh bien, ça va être encore une maîtrise de la chimie qui va permettre de faire pas des particules à gradient de concentration, mais plutôt des fibres optiques à gradient d'indice. Donc c'est la raison pour laquelle je vais directement me déplacer sur mon second exemple, qui va maintenant s'intéresser aux fibres optiques. Alors les fibres optiques, vous savez tous ce que c'est, ce sont ces conducteurs ou ces fibres de verre qui vont pouvoir conduire la lumière, et cette lumière directement qui va transmettre toutes vos informations qui vont arriver à votre télévision, à votre Internet, et ainsi de suite. Alors, comme vous pouvez voir ici, je dirais que cette interaction, l'utilisation du verre en conjonction avec la lumière, n'est quand même pas récente, puisque les Grecs, je dirais bien avant, quelques années avant Jésus-Christ, mais de 200 ou 300 ans avant, eh bien, utilisaient directement cela, cette combinaison de lumière et également de verre, pour faire des objets, je dirais, à titre décoratif. Même les Vénitiens à la Renaissance utilisaient cela pour faire des millefiori, c'est-à-dire des perles en verre, avec déjà des procédés qui ressemblaient beaucoup à celles des fibres optiques aujourd'hui. Mais il est intéressant de reconnaître que finalement, dans ce domaine, la science n'est arrivée que bien longtemps après, grâce à un physicien suisse, Jean-Daniel Colandon, qui observait finalement qu'un jet d'eau pouvait conduire à la lumière. Un jet d'eau pouvait conduire à la lumière, et ensuite, bien sûr, comme barreau de verre pouvait conduire à la lumière. Et cela a ensuite directement conduit John Tyndall, dont on vous a déjà parlé, eh bien, à imaginer les fontaines éclairées à eau. Mais tous ces travaux visant à contrôler ce guidage de la lumière par les fibres optiques, eh bien, ne put conduire à des avancées que grâce à des travaux à Corning Glass en 1970 qui ont montré la possibilité de préparer des fibres optiques avec, comme vous allez voir, des taux d'atténuation relativement faibles, c'est-à-dire ils ont pu descendre en dessous de 20 décibels par kilomètre. Et je vous montrerai directement quelle est l'implication de tout cela dans quelques instants. Ensuite, en 1973, une autre découverte, je peux dire, ou une autre avancée considérable a eu lieu dans les laboratoires de Bell Labs, où là, un procédé CVD, c'est-à-dire de déposition en phase de vapeur, comme on l'a déjà vu, a permis tout simplement de procéder, de préparer des fibres optiques à grande échelle et à de faibles pertes, dont on verra par la suite. Et finalement, en 1975, ce fut la première utilisation de fibres commerciales pour les télécommunications. Et en 1980, ça a été le début d'intégration de la fibre optique comme remplacement de la fibre de cuivre dans les réseaux téléphoniques. Et vous savez qu'aujourd'hui, cette transplantation est presque totale. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'est cette fibre optique. Nous voyons un peu avant d'arriver à la chimie, quelques aspects ou quelques bases sur ces fibres optiques. Alors, c'est exactement quoi ? Bien, cette fibre optique n'est rien d'autre que cette fibre de verre qui va être avec un cœur et une gaine optique, comme indiqué ici, et avec une enveloppe de protection. Et ce qui va se passer, eh bien, dans ce cas, on va tout simplement regarder la loi de Snell-Descartes pour directement qui est la loi qui va régir le transport de la lumière entre deux milieux d'indices de réfraction différentes, qui va être directement contrôlée par cette équation indiquée ici. Et on peut voir que dans ce cas, pour chaque fibre optique, lorsque vous avez un cœur et une gaine optique, cœur d'indice N1, gaine optique d'indice N2, eh bien, on va pouvoir, dans ce cas, en déterminer ce que j'appellerai l'angle de la capture de la fibre optique, qui va être défini par cet angle alpha M, ainsi que par le rapport ou les valeurs des indices de réfraction N1 du cœur et N2 directement de la gaine. D'où par conséquent, vous voyez qu'en ce cas, pour qu'un rayon soit guidé par une fibre optique, eh bien, il va falloir qu'il rentre dans une direction qui soit directement direction appartenant à cet angle de capture. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, pour une efficacité, si on veut directement guider la lumière, il faudra que le maximum de rayons rentre une fois de plus à l'intérieur de cet angle de capture. Si les rayons ont un angle supérieur à alpha m, eh bien, ils ne seront pas guidés par cette fibre optique. Alors, comment cela se passe-t-il ? Maintenant, si on regarde cette fibre optique, eh bien, on s'aperçoit finalement, ce que j'ai tracé ici, vous avez le cœur d'indice N1 et N2. Donc maintenant, j'ai cette lumière qui va être guidée dans cette fibre optique, et bien sûr, dans une lumière, vous avez plusieurs rayons qui vont arriver avec des angles différents. D'où vous voyez, finalement, que dans ce cas, il y a des rayons qui sont prêts directement avec des angles alpha m qui sont relativement faibles, vont parcourir rapidement et arriver rapidement de l'autre côté, alors que les rayons les plus inclinés eh bien, vont mettre plus de temps. Et ça, eh bien, c'est à l'origine de la dispersion en temps des fibres optiques. Vous allez le voir ici, vous voyez directement que si on voit un signal à delta T1, eh bien, dû au fait, quand je dis un signal, une onde lumineuse, dû au fait de la dispersion entre ces différents signaux, eh bien, vous apercevez qu'en ce cas, je vais avoir un élargissement de l'impulsion. Et ça, c'est ce que j'appelle tout simplement la dispersion ou temps de la fibre. Et ça s'exprime, comme indiqué ici, en nanosecondes par kilomètre. D'où par conséquent, eh bien, le problème était comment résoudre ce problème de dispersion en temps. Eh bien, pour faire cela, je remets ici directement cette fibre que j'appellerai à saut d'indice, dans lequel, finalement, cette dispersion en temps est supérieure à 1%, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, finalement, on peut utiliser cela pour transmettre un signal de 2 km ou guère plus. Maintenant, bien sûr, puisque je vous ai parlé que cette dispersion en temps provient finalement de la dispersion des rayons qui vont rentrer dans cette fibre, eh bien, la première solution a été tout simplement de faire directement un cœur très faible. Et si on fait un cœur très faible, eh bien, on a ce qu'on appelle les fibres monobodes ou les fibres uninodales, dans lesquelles, dans ce cas, vous voyez, automatiquement, la fibre arrive perpendiculaire, d'où elle est épodiffractée, et elle voyage à sa vitesse normale. Et on a, dans ce cas, une dispersion en temps qui est relativement faible, aux alentours de 0,2%. Par contre, maintenant, une autre solution qui est intéressante consiste à préparer ce que j'appellerai cette fameuse fibre à gradient d'indice. Alors, vous allez comprendre très facilement pourquoi et la raison. En effet, rappelez-vous, vous voyez qu'ici, si j'ai des angles différents, eh bien, je vais avoir finalement le rayon en rouge qui va mettre un temps infini pour traverser. Par contre, le rayon en bleu, il y va direct. Ça veut dire que, dans ce cas, la vitesse de propagation, c'est C sur N. D'où, si je veux, dans ce cas, ralentir ou accélérer plutôt ce rayon rouge, il va falloir tout simplement que je fasse un gradient d'indice pour que mon indice soit plus faible ici qu'à l'intérieur. Et si je fais ce gradient d'indice, eh bien, dans ce cas, vous voyez, ce rayon rouge, il va directement passer plus de temps dans un domaine d'indice faible, d'où il va parcourir plus de distance que le rayon central qui va avoir directement un indice de réfraction important. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, vous avez directement, comme indiqué ici, vous avez des pertes en dispersion qui sont beaucoup plus faibles que dans le cas tout simplement de cette fibre à saut d'indice. Et ça, eh bien, il suffit tout simplement de construire des fibres dans lesquelles on va pouvoir ajuster cet indice de réfraction. Bien ça, les chimistes savent le faire, car il y a eu des études fondamentales pour voir comment cette anisorréfraction de la silice, SiO2, varie en fonction des différents dopants, d'autres oxydes, bien sûr, que sont l'oxyde de zirconium, de titane, d'alumine, de fluor, on y reviendra ici, d'oxyde de bore, ainsi de suite. Et par conséquent, ayant cela, eh bien, on va pouvoir par la suite construire ces fibres à gradient d'indice en utilisant des procédés, comme on le verra, de nouveau, de déposition en phase vapeur, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un des problèmes dans ces fibres optiques, ce qui a freiné leur développement. Mais un autre problème, je dirais, mais plutôt même un cauchemar, dans le cas des fibres optiques, a été, je l'ai mentionné, leur atténuation. En effet, si vous regardez maintenant la fibre optique, vous prenez un émetteur et vous prenez un détecteur, voilà la fibre optique en vert, eh bien, on peut définir ce qu'on appelle la perte ou l'atténuation par cette relation, c'est-à-dire qu'on va directement regarder la puissance sortie par rapport à la puissance entrée. Eh bien, si, dans ce cas, on a des matériaux de faible qualité, eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, on va avoir directement des pertes gigantesques. Et c'est pour ça, jusqu'à 1970, on avait des pertes qui étaient supérieures à 20 décibels par kilomètre, qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas utiliser tout simplement ces fibres optiques. Bien, pourquoi cela et d'où viennent ces pertes? Donc, si on regarde maintenant le spectre d'atténuation de la fibre de silice, comme je le montre ici, en fonction de l'atténuation, en X, ou en Y, pardon, en fonction de la longueur d'onde, bien, vous observez ces courbes que je vais commenter. Tout d'abord, vous apercevez qu'il va y avoir des pertes UV à très faible longueur d'onde qui vont être dues directement, dans ce cas, aux transitions électroniques et aux transitions moléculaires. De la même, vous allez avoir des pertes infrarouges à plus longueur d'onde, dans l'infrarouge lointain, dues tout simplement aux vibrations des liaisons silicium-oxygène. Et enfin, vous avez ici, comme vous le mentionnez, la diffusion Rayleigh, Et ça, eh bien, on l'a déjà vu, vous savez que la diffusion Rayleigh eh bien, est proportionnelle ou inversement proportionnelle à la puissance 4 à la longueur d'onde. Ça veut dire que, dans ce cas, eh bien, si les particules deviennent petites, cette absorption va être augmentée dans le domaine UV. Et c'est ce qui se passe, vous voyez la diffusion Rayleigh qui est augmentée à basse longueur d'onde. Et cette diffusion Rayleigh, malheureusement, est un problème relativement intrinsèque aux matériaux associé à des changements locaux d'indice de réfraction, mais également à des changements de concentration. Mais enfin, le problème le plus important et qui a pris un temps énorme à résoudre est tout simplement ces pics d'absorption de OH qui sont associés au procédé et qui ont directement le fait de travailler avec des hydroxydes et ainsi de suite. Donc, par conséquent, au jour d'aujourd'hui, dans les télécommunications, eh bien, on va utiliser trois fenêtres. La première fenêtre qui va être de 800 à 900 nanomètres, la deuxième qui va être de 1250 à 1350 et la troisième de 1500 à 1600 nanomètres. Et vous voyez qu'en cette troisième fenêtre, eh bien, c'est là finalement où on va tout simplement avoir l'atténuation, je dirais, la plus faible. Eh bien, c'est la raison pour laquelle tous les câbles transocéaniques, ainsi de suite, travaillent dans ce domaine de longueur d'onde. Okay. Et ce domaine de longueur d'onde, eh bien, on peut encore jouer avec, dans ce cas, l'absorption ou l'atténuation, si bien qu'aujourd'hui, on arrive directement à 0,15 décibels par kilomètre. D'où, voilà directement où est-ce qu'on en est dans le cas de la fibre de silice, et on a atteint, je dirais, les limites d'atténuation dans ce cas. Alors, limite d'atténuation, je le mentionnerai, vous ne faites pas trop de soucis, puisqu'il y a une grande découverte en même temps qui sont directement les amplificateurs à l'erbium. Je mentionnerai plus tard. D'où par conséquent, bien les chimistes, pour aller plus loin, il fallait changer de matériau, et c'est la raison pour laquelle eh bien, les fibres à base de fluor sont arrivées. Et là, vous avez directement le coefficient d'absorption, avec les plus importants, dans ce cas, ce qui est les pertes par décibel par kilomètre, pour SiO2, et directement pour les verres fluorés. On voit toujours dans ce cas, de nouveau, l'augmentation dans le cas de l'infrarouge due aux absorptions et aux liaisons métal-oxygène et aux métal-fluor. Mais vous pouvez voir ici qu'avec directement le cas des verres fluorés, on peut avoir des fibres avec des pertes d'atténuation qui sont extrêmement faibles. Malheureusement, la nature n'est pas toujours, je dirais, participante avec nous, puisque dans ce cas, ces fibres fluorées vont aussi réagir à l'humidité et vont créer quelques problèmes lors de la fabrication. D'où c'est la raison pour laquelle des matériaux, d'ailleurs, qui ont été développés à Rennes, dans un groupe français, sont les composés connus sous le nom de ziblen, puisqu'ils sont formés de ces 4 ou 5 constituants que sont fluorure zirconium, barium, lanthane, aluminium et sodium. Donc voilà, si vous voulez, comment la chimie a permis d'améliorer cette recherche en abaissant l'atténuation de ces filons. Alors maintenant, voyons comment l'aspect procédé a également permis de construire ces fibres. Alors on va, dans ce cas, passer en élaboration différents procédés que sont, comme indiqué ici, tout d'abord le procédé ou la méthode des deux creusets. Cette méthode des creusets, finalement, qui consiste à utiliser deux creusets périphériques, dans lequel, dans ce cas, ils sont encastrés l'un dans l'autre. Et vous voyez que le creuset de centre est là où se trouve le verre, correspondant au verre est le creuset de centre, et le creuset périphérique est là où se trouve la gaine. Bien, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va porter directement ce four à haute température. Ça va créer tout simplement, je dirais, le ramollissement et la fusion de ces verres. Il va y avoir écoulement, formation d'une coulée et étirement de la fibre optique. Et on va obtenir ces fibres optiques avec les cœurs gaines, ainsi de suite. Bon, ce procédé a été utilisé, je dirais, au départ, mais aujourd'hui est délaissé, pour la bonne et simple raison, c'est que, dans ce cas, il y a une contamination énorme du verre avec, je dirais, les matériaux formant les creusets, ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, il y a des pertes, je dirais, des atténuations relativement importantes dues à toutes ces impuretés et ces défauts. La deuxième approche va consister, la plus utilisée de loin, à préparer ces fibres optiques à partir de préformes. Et là, eh bien, on va avoir des méthodes, 3 étapes. Il va y avoir tout d'abord l'élaboration de la préforme, l'étirage de la fibre à partir de la préforme, et ensuite on verra un processus de revêtement ou de gainage, dont j'ai mentionné, pour protéger la fibre lors de son installation, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas, eh bien, le premier procédé qui a directement été vraiment une réussite est celui dont je vous mentionnais déjà, qui est le procédé qui a été développé par le dépôt en phase chimique ou en phase vapeur, qui est le MCVD, qui a été développé dans les laboratoires de Label en 1973. Alors, ce procédé, ou le schéma de ce procédé, est indiqué ici. Il consiste tout d'abord à l'utilisation de composés halogénés, liquides, voire gazeux. Mais ici, on utilise des composés halogénés pour la bonne et simple raison, pourquoi je vous l'ai mentionné, c'est qu'on ne veut pas du tout d'abord de contamination avec les groupes hydroxyles. Donc dans ce cas, on va tout simplement chauffer ces composés sous flux d'oxygène pour obtenir des gaz qui vont directement pénétrer sur cette zone scellée qui est tout simplement un tube de quartz. Et bien sûr, vous avez un mélange de gaz qui va vous permettre de contrôler les quantités de SiSl4, PoCl3 que vous allez pouvoir mettre. Et on va venir déposer dans ce tube de quartz, que vous voyez ici, qui est passé sur un tour, qui va tourner des couches successives de suie de silice avec des dopants comme GSL4 ou GO2, et ainsi de suite. Et lorsqu'on est à cette température, eh bien, les réactions qui se produisent sont indiquées ici. Vous allez avoir des oxydations des groupements halogénés pour conduire directement à la silice, bien sûr, qui va être le constituant majeur de la fibre optique, mais avec des impuretés qui vont être les dopants GO2, P2O5 et P2O3, qui vont permettre d'ajuster l'indice de la fibre comme vous le voulez. Et on va tout simplement déposer des couches successives. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, vous avez le tube, les réactants qui arrivent, et vous avez, lorsque le tube tourne, tout d'abord la formation de des suies de silice, et ensuite, lorsque la torche passe, eh bien, vous allez tout simplement vitrifier et obtenir le verre. D'où voilà, si vous voulez, comment ce procédé, qui est encore largement utilisé aujourd'hui, fonctionne. Alors, bien sûr, il y a eu des améliorations depuis 1973. C'est des améliorations, j'essaie de vous les décrire ici, dans lesquelles, dans ce cas, et je rapporte la formation ou le schéma opérationnel qui est utilisé dans MCVD. Il y a eu des améliorations en utilisant le plasma MCVD. Bien, dans ce cas, l'amélioration a été apportée en utilisant une bobine radiofréquence autour directement du tube pour créer un plasma et pour accélérer ou favoriser tout simplement les réactions d'oxydation, c'est-à-dire la formation de ces oxydes. Une autre amélioration est ce qu'on appelle le plasma CVD, qui ressemble fortement à celle-ci ici. La seule différence qu'on peut voir ici, c'est que maintenant, on remplace la bobine radiofréquence par un réacteur micro-ondes, avec toujours, dans les deux cas, la torche, et qui vont se déplacer, qui vont faire un va-et-vient. La seule différence et le seul avantage de ce procédé, c'est que maintenant, eh bien, on va tout simplement plus avoir de suie, on va directement obtenir la couche de verre vitrifiée. Et, de nouveau, tout ça vous montre comment, en construisant couche par couche, eh bien, on peut ajuster l'indice de réfraction de l'extérieur vers le cœur et obtenir ces fameuses fibres à gradient d'indice. Alors ensuite, vous allez voir d'autres procédés qui vont, je dirais, dans le fondamental, vont être relativement identiques, mais qui vont quand même montrer certaines différences au niveau de leur réalisation. On a le procédé OVD, c'est-à-dire, comme indiqué ici, Adder Vapor Deposition, où maintenant, vous voyez, on va aller tout simplement déposer, pas à l'intérieur d'un tube de quartz, mais on va prendre un mandrin qu'on va faire tourner, et on va aller tout simplement déposer les précurseurs oxydés qui vont directement alimenter une torche, comme indiqué ici, avec un jeu de va-et-vient. Ça, c'est les procédés qui ont été directement mis au point par Corning dans les années 1970 et qui ont bien sûr été améliorés. Mais dans ce cas, vous voyez qu'on va obtenir directement, je dirais, une préforme qui va être poreuse, d'où il va falloir la traiter. Et dans ce cas, il va y avoir un traitement qui, comme vous pouvez voir ici, eh bien, puisque dans ce cas, on est exposé à de l'humidité, si je peux dire, à des groupes hydroxyles, eh bien, il va y avoir une étape de fabrication de la préforme, de frittage, qui va se faire directement avec des gaz déhydratants, comme un mélange d'hélium et de Cl2, pour obtenir, pour collapser cette préforme et avoir la préforme qui va être prête à l'étirage par la suite. Donc voilà, si vous voulez, une autre méthode. Une troisième méthode, ça, je dirais, qui a été développée au Japon, c'est-à-dire que chaque pays, si je peux dire, ou chaque, on a vu Bell Laboratories, et maintenant avoir Nippon Telephone et Telegraph Laboratories, c'est-à-dire toutes les compagnies qui ont été, je dirais, les leaders dans les télécommunications, qui ont développé leur procédé de fibre optique. Et ça, c'est un procédé développé au Japon, qui est encore largement utilisé au Japon, où, vous voyez, la différence, c'est que maintenant, on va faire encore un dépôt extérieur, mais on va utiliser un mandrin sur lequel on va déposer. On va déposer sur ce mandrin qui va être soulevé, puis au fur et à mesure qu'il va tourner. Ce qui fait qu'on va créer là aussi notre préforme comme indiqué ici. Et là, on fait tout à une seule étape. Vous voyez, dans ce cas, deux, si je peux dire, deux répartitions de la colonne avec des vides différents. C'est-à-dire que la préforme va être remontée, passée à l'intérieur de four, qui va être mise sous atmosphère déshydratante pour que cette préforme soit, une fois de plus, déshydratée. On essaie de sortir le plus d'OH et vitrifier en même temps. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, voyez ce qu'on peut obtenir. Ça, c'est les records, je dirais. Cette méthode est aussi, je dirais, est comparable à la méthode développée par les laboratoires de Label, où les taux de concentration en OH sont de 0,3 ppm, ce qui conduit à des atténuations de 0,157 décibels par kilomètre. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a pu se faire en contrôlant des procédés de dépôt en chimie phase vapeur. Alors, une fois que vous avez fait toutes ces préformes, eh bien sûr, le dernier point est de fabriquer la fibre. Et comment vous faites cela? Eh bien, vous prenez ces colonnes de fibrage, de tirs de fibrage, où vous avez un four, vous allez alimenter la préforme dans ce four, ce qui fait qu'il va y avoir ramollissement, puis fusion, une goutte va se former, et le fil va commencer à s'étirer. Et on va tout simplement contrôler, bien sûr, de façon rigoureuse, le diamètre de ce fil. Et ensuite, ce fil, eh bien, comme vous pouvez voir ici, il va passer dans deux fours, ou dans deux récipients, excusez-moi, qui vont contenir des polymères. Et c'est là où on va mettre cette fameuse gaine de protection. Et cette gaine de protection va être faite de polymères différents, car on va faire une gaine intérieure et une gaine extérieure, avec des taux de durcissement différents. Et ces taux de durcissement vont être ajustés par la température, mais également par, je dirais, des mécanismes de réticulation UV pour réticuler ces polymères. Et chaque fois, eh bien, on contrôle de façon très précise ce diamètre des fibres. Et ensuite, vous allez enrouler les fibres et vous avez des kilomètres de fibres que vous pouvez tirer. Eh bien, au niveau industriel, tout ça, eh bien, se fait dans ces colonnes de tirage, qui sont des colonnes, je dirais, de 5 ou 6 mètres de haut, où vous voyez ici la fibre optique a été récoltée. Eh bien, cette fibre optique, comme vous savez, elle est actuellement partout. Vous apercevez ici des connexions, des câbles de fibre optique, et c'est la raison pour laquelle maintenant, on peut communiquer dans tous les continents, et ainsi de suite. D'où cet exemple, une fois de plus, était là pour vous indiquer comment la chimie du solide, la chimie des composés inorganiques, a permis, je dirais, cette révolution technologique grâce tout d'abord à la possibilité à formuler des verres de différents indices de réfraction, mais également à créer ces fameuses fibres à gradient d'indice ou à, je dirais, saut d'indice. Et une autre découverte, ou une autre avancée, je dirais, considérable, due à la chimie, a été effectivement la création ou développement de ces amplificateurs à erbium, c'est-à-dire des amplificateurs à fibre optique sur la base de composés vitrés dopés à l'erbium. Ça veut dire qu'en ce cas, bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction chimique entre les ions erbium et la lumière, qui fait en sorte que ces ions sont excités et ensuite vont relâcher l'énergie, qui vont relâcher des photons pour augmenter directement la fibre optique. Ce qui fait que si vous, par exemple, parce que vous prenez un câble transocéanique, eh bien, tous les 50 km, vous avez tout simplement ces amplificateurs dopés à l'erbium qui vont tout simplement re-augmenter le signal, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, on peut avoir des distances parcourues de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. D'où là, si vous voulez, pour conclure cet exemple, ce second exemple sur l'apport de la chimie, qui était cette fois dans le cas des fibres optiques. Et enfin, pour terminer, eh bien, je voudrais maintenant m'intéresser au cas des troisième cas, qui va être le microprocesseur. Et là, mon but aussi, de façon relativement simple et rapide, de vous montrer comment on peut passer par la chimie du grain de sable au microprocesseur. Alors ces microprocesseurs, bien sûr, ça aussi, vous savez très bien l'histoire de ces microprocesseurs, ou du moins je vais essayer de vous la rappeler, dans lequel il y a eu des faits historiques très importants, mais je n'en garderai que deux. Le premier, c'est tout simplement la réalisation du premier computer électronique qui a été réalisé à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie en 1946. Vous avez ici le premier computer électronique qui a permis d'obtenir une plus grande vitesse de calcul. Et celui-ci, eh bien, il occupait une surface de 160 m². Il était de 30 tonnes. Il comprenait 170 000 tubes électroniques et plus de 6 000 connecteurs. Et ces 6 000 connecteurs, eh bien, il fallait tout simplement les changer manuellement pour pouvoir câbler votre computer et réaliser les calculs que vous souhaitez. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote qui dit qu'en 1947, ce computer s'est arrêté totalement. Et il a fallu pas mal de temps aux ingénieurs pour comprendre finalement la raison de cette panne. Et il se trouvait que finalement, c'est une mythe qui était coincée dans un relais qui a créé ce court-circuit. Et c'est là que vient le mot du premier bug en informatique. Donc voilà, si vous voulez, ça. Mais plus sérieusement, eh bien, je crois que les plus grandes avancées proviennent encore des laboratoires de Label en 1947, grâce à ces trois chercheurs, John Bardeen, William Shockley et William Brighton. Et pour la petite histoire, John Bardeen est un prix Nobel qui a eu le prix Nobel deux fois, en 1956, bien sûr, pour son travail sur la fibre optique, et pour le transistor, excusez-moi, et en 1972, pour ses calculs et sa théorie sur les supraconducteurs. D'où, on va voir maintenant qu'est-ce que le transistor et comment le construire. Alors, un transistor, eh bien, c'est tout simplement, on peut le décrire simplement de la jonction de deux jonctions PN en opposition. Et vous avez dans ce cas le transistor bipolaire qui peut finalement être, je dirais, assimilé à un robinet dans lequel, si maintenant vous appliquez directement un faible courant, vous allez avoir l'ouverture du robinet qui va provoquer l'émetteur à recevoir tout un courant du collecteur comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, un des premiers transistors. Le deuxième transistor est un transistor MOS, c'est-à-dire métal oxide semi-conducteur. Pour la bonne et simple raison que dans ce cas, la construction est différente. Et vous voyez, vous avez directement un oxyde en noir, qui est l'oxyde de silicium, sur le métal indiqué ici, qui va constituer la porte. Et la différence essentielle entre ces deux transistors est que le transistor bipolaire, eh bien, il va être directement contrôlé par une source de courant, alors que le transistor MOS va être contrôlé par une source de tension. Et ça, c'est très important, car sous source de tension, ça veut dire qu'en ce cas, il n'y a pas d'énergie consommée. Et s'il n'y a pas d'énergie consommée, eh bien, l'échauffement sera relativement faible. Et c'est la raison pour laquelle toute la microélectronique, tous les microprocesseurs vont utiliser ce genre de transistor. Alors ces transistors, bon, vous savez plus que moi à quoi ils servent, eh bien, ils servent tout simplement à faire de l'amplification de signal, à stabiliser les tensions, mais surtout, ils servent comme interrupteurs 0-1 dans les circuits logiques, c'est-à-dire ils permettent le passage de systèmes analogues à des systèmes digitaux binaires. Et ils sont à l'origine de tous les calculs et de toute la microélectronique. Alors, pour faire ces transistors, eh bien, comme on peut voir ici, on va utiliser, vous voyez, ils sont tous basés sur des semi-conducteurs avec du silicium, et on va voir également du SiO2, pour des raisons différentes. D'où par conséquent, il va falloir fabriquer ce silicium. Et c'est là que la chimie va intervenir, et là aussi, je tiens à dire que si ces transistors ont pu fonctionner, c'est grâce à la capacité à pouvoir obtenir du silicium avec des taux de pureté records par des procédés, je dirais, innovants. Alors tout d'abord, si on prend directement du sable, eh bien effectivement, on peut prendre du sable, ça se fait comme ça, ou d'abord, on peut préparer du silicium, je dirais, de qualité métallurgique, 98%. Et dans ce cas, on fait des réactions, comme ici, une réduction à haute température par du carbone ou par du CaC2, et on obtient, dans ce cas, du silicium. Mais ce silicium, il contient des impuretés que sont le fer, l'aluminium et autres. D'où par conséquent, il va falloir faire une purification de ce silicium. Et pour purifier ce silicium, l'astuce, elle est ici. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement transformer le silicium en trichlorosilane SiHCl3, qui, dans ce cas, est un liquide. Ayant un liquide, eh bien, on va pouvoir faire de la distillation, si je peux dire, comme en chimie organique. Et en fait, si on fait cette distillation, eh bien, on va pouvoir, dans ce cas, séparer les espèces comme AlCl3 et FeCl3. D'où on fait cette distillation. Et ensuite, eh bien, on peut décomposer ce matériau SiHCl3 à 1000 degrés en silicium pour obtenir du silicium, qui, dans ce cas, a des impuretés en carbone inférieures à 200 ppm, en oxygène inférieur à 50 ppm et d'autres éléments inférieurs à 10 puissance moins 3 ppm. Tout ça, si vous voulez, c'est pour préparer directement de la poudre polycristalline de silicium haute pureté. Mais ensuite, parce que vous faites en microélectronique, vous savez qu'il vous faut directement des wafers, c'est-à-dire des plaquettes de silicium haute pureté. Et bien pour cela, il va falloir directement faire croître des cristaux. Et pour faire croître des cristaux, eh bien, on va tout simplement utiliser une méthode qu'on a déjà vue, je crois, l'an dernier, qui est la méthode Chokolsky, que j'appelle la fondue savoyarde. Ou dans ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser ce système indiqué ici, dans lequel on va mener ce barreau de silicium, dont je l'ai mentionné par avant, métallurgique, si je peux dire, ou purifié, qu'on va faire fondre dans ce four à haute fréquence, comme indiqué ici. Et on mettra dessus une couche de B2O3 pour empêcher tout simplement la volatilisation. Ensuite, on fait tourner le haut et le bas de façon différente pour avoir une certaine agitation. Et notez qu'on va simplement faire croître ces barreaux de silicium en venant ici insérer un germe dans cette partie fondante. Et on va retirer de façon constante et graduellement ce barreau de silicium pour obtenir, dans ce cas, ces fameux lingots qui peuvent avoir des sommes, je dirais, gigantesques, qui peuvent peser jusqu'à 100 kg. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce cas, on utilise bien sûr des creusets dont les points de fusion sont supérieurs à celui du silicium, qui dans ce cas sont des creusets de platine, ou, si on veut aller à haute température, sont des creusets d'iridium. Le platine fondant à 800 degrés et l'iridium à 2500. D'où voilà comment on prépare ces lingots. Et ces lingots, ensuite, eh bien, on va pouvoir, selon le type de germe qu'on va mettre, orienter leur croissance. Vous allez voir pourquoi cela est important aussi. Et ainsi de suite. Ensuite, on va tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, découper ces barreaux de silicium pour en faire des wafers. Des wafers ou des plaquettes qu'on va nettoyer et polir pour obtenir cette fameuse surface brillante. Et là, vous voyez qu'on peut obtenir, à l'heure actuelle, des wafers, c'est-à-dire des barreaux de silicium qui peuvent avoir directement 20 cm de diamètre. Et bien sûr, on peut les obtenir selon différentes directions cristallographiques. Et ça, c'est important, car ici, je vous montre directement la projection des atomes de surface, selon qu'on fait croître du silicium sur la direction 1-1-0, 1-0-0 ou 1-1-1. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va falloir doper le silicium, on va le faire directement par implantation ionique. Et vous allez voir qu'en ce cas, eh bien, si je peux dire, les ions vont être implantés sur cette surface, je dirais comme du beurre, elle est relativement ouverte. Par contre, dans ce cas, il vous faudra directement un rayonnement énergétique beaucoup plus puissant. D'où, gardez ça en mémoire. D'où vient cela ? Eh bien, ensuite, on va commencer à voir le procédé. Et comme je l'ai mentionné, lorsqu'on parle de transistor, il y a toujours le silicium, et son matériau père, si je peux dire, SiO2. Et pourquoi ? Vous allez voir que SiO2, finalement, a une importance presque aussi capitale que le silicium. Le silicium, vous savez tous, c'est un semi-conducteur, c'est la raison pour laquelle on peut faire ces fonctions PN, ainsi de suite, on peut le doper plus ou moins. Et par contre, vous avez SiO2 qui est un isolant, avec un gap qui est relativement gigantesque de 9 électrons volts. D'où, par conséquent, il va pouvoir finalement bloquer le courant. Mais ce composé, il résiste, très résistant mécaniquement, il a une bonne adhésion au matériau mère, qui est le silicium, faible constante électrique, et va empêcher la diffusion d'impuretés, même d'ions, lors de l'implantation. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, il va falloir également maîtriser cette croissance de SiO2. Et pour ce faire, bien sûr, on peut préparer SiO2 à partir de silicium et d'oxygène, mais si on le fait à 1000 degrés, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque finalement, lorsque vous travaillez dans les semi-conducteurs, à 1000 degrés, vous ne pouvez pas traiter vos semi-conducteurs. Donc, par conséquent, il faut baisser les températures, et c'est la raison pour laquelle on va tout simplement faire réagir directement du xylane, de l'oxygène, ou du xylane avec des protoxydes d'azote, à des températures, je dirais, relativement plus basses. Et on va obtenir des couches de SiO2. Et ayant cela, eh bien maintenant, on est presque prêt, si je peux dire, à commencer ce circuit intégré. Alors, ce circuit intégré, eh bien, il va d'abord se faire dans des salles sèches, car vous allez voir que des graines de poussière peuvent être directement très néfastes à la qualité des matériaux qu'on va préparer. Et vous allez voir qu'en ce cas, eh bien, il va y avoir des procédés relativement pas complexes, mais qui vont être répétitifs. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va aller mettre une couche, il va y avoir cette étape où il va falloir finalement déposer, protéger, exposer et graver. Et vous avez toutes ces étapes qui sont décrites ainsi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un peu comment ces différentes étapes se forment et comment on va arriver au procédé final. Alors je vais commencer par la première étape, qui est l'étape, je dirais, systématique, qui va être la même, où on va finalement mettre une photorésiste. Et cette photorésiste va être essentielle, car c'est elle qui va nous permettre finalement de développer un circuit, et ainsi de suite. Ensuite, cette photorésiste, eh bien, on va tout simplement l'exposer à un rayonnement UV. Et on va l'exposer grâce à un photomasque. Et ce photomasque, j'appellerais, c'est presque le stencil en microélectronique. C'est-à-dire qu'il est très important, car c'est lui directement qui va me permettre de transférer le dessin de mon circuit, de ma plaque, à cette résine polymère qui va être directement garder l'image latente de ce dessin, de ce stencil. Et cela se fait par ce rayonnement UV comme indiqué ici. Ensuite, eh bien, il va falloir que je développe cette résine. Et ça, c'est presque, presque comme vous faites à la photographie, vous allez directement exposer cette résine dans différentes solutions d'acide, ainsi de suite. Mais il y a quand même une différence à réaliser, c'est qu'il va y avoir deux sortes de résines. Il va y avoir des résines que j'appellerai positives et des résines négatives. Pourquoi ? Vous allez comprendre très facilement la raison. Les résines positives, eh bien, dans ce cas, sont des résines qui, sous rayonnement UV, vont conduire à des transformations chimiques qui vont finalement solubiliser cette résine. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va faire la révélation, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, je vais dissoudre la résine dans la partie qui a été exposée. Par contre, vous avez des résines négatives, et certains d'entre vous ont peut-être reconnu ici la résine phénolformaldéhyde. Rappelez-vous, c'est une résine que j'utilisais dans mon troisième cours pour faire tout simplement des gels de carbone et de préparer des carbones mésoporeux. Vous avez également des résines négatives, et dans ce cas, c'est tout simplement ces groupes époxy, où là, la différence, vous voyez, c'est que maintenant, eh bien, lorsque je vais envoyer un rayonnement UV, ce rayonnement UV va réticuler directement le polymère, c'est-à-dire va le solidifier. Ce qui fait que lorsque je fais la révélation, eh bien, c'est cette partie qui va maintenant rester. D'où, ayant fait cela, eh bien, on peut maintenant obtenir, comme on peut voir, ces différentes sortes de patterns, et on peut continuer ensuite. Alors vous voyez, maintenant j'ai directement sorti directement ou fait l'empreinte de mon film. Maintenant je veux directement sortir SiO2. Dans ce cas, je vais utiliser directement une utilisation d'un plasma, c'est-à-dire que je vais tout simplement envoyer des ions à la surface qui vont bombarder et qui vont éjecter les atomes de surface pour obtenir finalement ce film avec sa gravure comme indiqué ici. Et bien sûr, il reste dans ce cas quelques atomes qu'il va falloir que je me débarrasse, comme indiqué ici, en me débarrassant également des derniers déchets, je dirais, de polymérique. Et là, je vais utiliser ce qu'on appellerait une solution acide qui porte bien son nom, qui est le mélange piranha, qui va directement attaquer tous les ingrédients et directement qui est un mélange de H2SO4 et de H2O. D'où, vous voyez qu'en ce cas, bien maintenant j'obtiens ma surface de silicium avec ici encore une partie de SiO2, et vous voyez qu'en ce cas, j'ai ma gravure. D'où, prochaine étape, et bien maintenant mon semi-conducteur, il va falloir le doper, P ou le doper N, et bien cela, on va le faire encore comme on l'a vu, en utilisant un procédé placement, c'est-à-dire qu'on va prendre maintenant les molécules qui nous intéressent, qui contiennent l'arsenic, pour doper P ou N, phosphore, et ainsi de suite, ou dans ce cas, on va transformer par plasma ces espèces moléculaires en ions, qu'on va directement aller séparer dans un spectre de Marx, et ensuite qu'on va accélérer pour aller directement implanter dans mon semi-conducteur. Et vous voyez qu'ici, eh bien, j'aperçois les différentes particules que je suis venu implanter pour faire un dopage P ou N, dépendant de ce que j'ai pris au départ. Et là aussi, je tiens à vous souligner ce que j'ai mentionné auparavant, c'est que finalement, l'énergie nécessaire va dépendre de la direction cristallographique de la surface dans laquelle je vais avoir implanté. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on obtient maintenant le semi-conducteur. On va retirer le stencil par des attaques chimiques, ou sais-je. Et ensuite, ce qui est important, c'est comme on a quand même désorganisé pas mal le silicium lors de l'implantation ionique, eh bien, il va falloir maintenant le réchauffer pour finalement répartir et réordonner directement les atomes impurs dans les morceaux de silicium. Donc voilà, si vous voulez, comment cela se fait. Alors ensuite, maintenant, on a presque le transistor. Ce transistor, eh bien, il va falloir maintenant le connecter. Pour le connecter, eh bien, vous allez voir que SiO2 revient, ou en ce cas, on va directement déposer une couche isolante pour ensuite, tout simplement, aller déposer une couche métallique. Et cette couche métallique, eh bien, on va la faire, ça va être directement du cuivre ou d'aluminium, et on va le faire également par un procédé qu'on a vu, je crois, dans le 4e ou 5e cours, qui est le procédé Damasen, qui est un procédé d'électrodépôt. Et on va obtenir un dépôt qu'on va polir pour obtenir finalement les contacts. D'où voilà, si vous voulez, la façon dont on fait. Alors maintenant, ça c'est un transistor, vous pouvez en faire plusieurs, il faut répéter les étapes, et finalement à la fin, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, tous ces transistors, il va falloir les interconnecter, d'où les interconnexions vont jouer un rôle capital dans ce microprocesseur, et vous voyez ici qu'il semblerait finalement que vous voyez un microprocesseur tout a l'air bien plat, eh bien non, regardez, vous avez un grand nombre de couches à l'intérieur. Et si je fais un zoom de tout ça, et vous apercevez que dans ce cas, finalement, j'ai presque un échangeur d'autoroute avec, tout simplement, des différents parkings en différentes directions, différents canaux, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la complexité de ça. Alors, grosso modo, si vous avez bien travaillé, eh bien, après des centaines d'étapes, des centaines de mètres d'interconnexion, eh bien, vous pouvez avoir des puces qui contiennent plusieurs dizaines de millions de transistors. Et la question, bien sûr, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour que ça fonctionne, il faut que l'un des transistors, il ne faut pas que l'un des transistors ou des interconnexions soit défectueux, soit court-circuité par un grain de poussière, donc je mentionnais la raison pour laquelle on travaille en salle sèche, et finalement, qu'une interconnexion ne soit pas sectionnée. D'où, comme vous pouvez voir, lorsque vous faites tant d'opérations, ce n'est pas aisé. Et quand je vais vous montrer un peu finalement la simple comparaison pour évaluer le degré d'exigence de ce procédé, eh bien, je vais comparer directement une wafer à la carte de la France. Grosso modo, ça veut dire que pour que mon transistor fonctionne, ça serait l'équivalent directement d'avoir toutes les habitations ou toutes les ampoules dans les habitations en France dans lesquelles aucune soit défectueuse et fonctionne tout le temps. Vous voyez, c'est totalement impossible. Eh bien, un transistor fonctionne parfaitement malgré toutes ces connexions, et ainsi de suite. Donc ça montre finalement la maîtrise du procédé qui a été obtenue par ces différentes approches de microélectronique et ainsi de suite. D'où, pour plus ou moins terminer, eh bien, vous savez tous que les transistors sont fortement utilisés. Vous avez ici le nombre de transistors par personne. Je me suis arrêté ici, je n'ai pas trouvé un graphe ou un supplémentaire, mais on était déjà dans ce cas à 1 milliard. Et vous voyez que maintenant, ça va être à 4 ou 5 milliards. Et bien sûr, on suit toujours la loi de Moore. Et si vous lisez les journaux, certains se demandent quand est-ce, jusqu'à combien on va la suivre, puisque aujourd'hui, on est à une réalisation de 10 ou 12 nanomètres. Mais les optimistes disent on va directement la suivre, voire l'augmenter, car maintenant, tout l'enjeu est de passer tout simplement au transistor quantique, où maintenant on va descendre directement à l'échelle de l'atome. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter et conclure sur ce troisième exemple, et vous montrer finalement que là aussi, c'est la chimie, par l'élaboration de silicium en haute pureté, et surtout par le développement de procédés de gravure, d'implantation ionique, de dépôt voire électrodépôts, qui ont joué un rôle essentiel dans ce développement des microprocesseurs. Et, bien sûr, les prochains microprocesseurs, je lisais avant-hier, les nouveaux devraient être à 7 milliards de transistors, ils devraient rentrer sur le marché en 2016. D'où voilà, si vous voulez, un peu comment je tiens à terminer ce cours, qui finalement va terminer un cycle de 2 années dédié à la chimie du solide et à ses applications pour la synthèse des matériaux. Je dirais que durant ce cours, nous avons d'abord montré, étudié les différentes façons de jouer avec l'aspect structural, l'aspect thermodynamique, mais également l'aspect cinétique pour préparer de nouvelles phases et de nouveaux composés métastables. Cette deuxième année, on a regardé plutôt les procédés et on a vu finalement comment les procédés d'élaboration ont pu conduire à des matériaux avec des propriétés spécifiques bien particulières en tirant parti de l'ajustement de la morphologie, ajustement de la forme et bien sûr du caractère nanométrique, voire nanoarchitecturé. Et tout au long de ces 2 années, j'ai essayé de vous montrer finalement comment cette recherche avait un impact dans le monde, je dirais, industriel et ainsi de suite. Mais comme vous le savez, ma chaire est intitulée chimie du solide et énergie, et il est temps maintenant que je me consacre à cette deuxième partie, d'où par conséquent, dans les 2 prochaines années, eh bien, je vais tout simplement développer plus l'aspect énergie, en m'intéressant plus particulièrement sur l'électrochimie appliquée et le dispositif électrochimique au service directement de notre planète. Donc voilà, si vous voulez, le cours qui sera présenté dans 2017 et 2018, lié tout simplement à l'énergie. Et avec ce, bien, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité, pour ceux qui sont là. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis prêt. Sinon, on va passer au conférencier invité, qui est Dominique Larcher. Bon, vous commencez à être un habitué de lui, puisqu'il est venu vous donner quelques cours déjà, et qui va nous parler plutôt de la manipulation d'atomes et dimensionnement d'objets, propriétés, applications et perspectives, d'où il va vous porter un peu dans le futur. Voilà.